Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservés aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Pensez à covoiturer.
Tout pour investir en portefeuille.
Plus qu'un point marché, un point portefeuille avec vous. Bonjour Stanislas.
Bonjour Lorraine.
Stanislas de Bailliencourt, vous êtes directeur des investissements chez Sycomore Asset Management. Est-ce que vous avez une réponse pour mon auditeur Eric qui nous demande si Total partait scoté à New York, est-ce qu'on pourrait encore acheter du Total dans nos PEA?
Alors c'est un cas très rare parce que très souvent on a plutôt des entreprises françaises qui ont la deuxième listing, donc l'ADR aux États-Unis. Est-ce que si on a le listing principal aux États-Unis et une forme d'ADR en France, ça pourrait rester dans le PEA? Peut-être, mais ça serait une nouveauté et un cas assez exceptionnel.
Donc point d'interrogation pour l'instant. Nous avons prévu de parler de beaucoup d'autres choses au-delà de Total avec vous Stanislas. D'abord revenir sur ce qui a fait un peu flop, la non et tant mieux, dégradation de la France par les agences de notation en fin de semaine dernière. Racontez-nous, donnez-nous un petit peu de contexte et puis votre regard là-dessus.
Alors, bon, il y a deux choses. C'est que, évidemment, c'était très attendu. La France garde son double A pour le moment. Je dis pour le moment parce que le 31 mai, on a Standard & Poor's qui doit rendre aussi son verdict et qui a déjà placé depuis quelques mois la France sous perspective négative. Si on donne quelques éléments pour des nations notées double A, elles ont en général aux alentours de 2,2% de déficit public. On est à 5,5, on attendait 4,9, mais on est à 5,5, donc on voit bien qu'on est un petit peu en dehors. Ce que voient les marchés aujourd'hui et la perception qu'ils ont de la France, ce que témoigne le spread, donc le différentiel de rendement entre les obligations d'État françaises et les obligations d'État américaines, allemandes aujourd'hui, c'est 50 points de base d'écart. Et on voit que cet écart, il est relativement stable au cours des derniers mois, malgré les mauvaises nouvelles depuis le mois de février sur les finances publiques françaises. Donc il n'y a pas de panique aujourd'hui ou d'inquiétude spécialement élevée des marchés sur une perte finalement d'un notch qui ferait passer à A+, la note d'État française, puisqu'on a déjà cet écart de rémunération qui existe face à l'Allemagne et qui est d'environ 50 points de base aujourd'hui.
Donc pas d'inquiétude. Pour nous investisseurs particuliers, c'est quoi la prochaine échéance qu'on garde dans le viseur? C'est la dégradation ou la vie de S&P?
Oui, c'est Standard & Poor's le 31 mai. Pour les particuliers, ils ont rarement une exposition directe à la dette des États. En revanche, au travers des fonds en euros, des compagnies d'assurance vie, donc qui est l'un des composants majeurs de la dette française au sein des fonds euros, là ça peut avoir un impact parce qu'il y a cette dégradation. Mais ce qu'on voit, c'est que finalement cet impact ou cette note mise par différentes agences, elle est déjà reflétée aujourd'hui dans le rendement de l'obligation d'État française, puisqu'elle présente déjà un risque supérieur à une obligation d'État allemande et de ce fait un rendement 50 points de base plus élevé.
Bon, voilà ce qu'on pouvait dire, le week-end ayant aidé à digérer cette non-dégradation pour nous, investisseurs particuliers. Un petit mot de la remontée de l'inflation aux États-Unis, si vous voulez bien, et de ce que ça pose comme problématique pour nos banques centrales respectives.
Alors, bon, ce qu'on voit bien, c'est qu'aujourd'hui, après une décrue très rapide de l'inflation au cours des 18 derniers mois, on a un plateau, voire même une légère remontée qui débute. Et ça, c'est particulièrement vrai aux États-Unis aujourd'hui. Et on le voit notamment dans l'inflation dite cœur. C'est-à-dire une fois qu'on enlève les composantes plus volatiles, comme par exemple le prix du pétrole. Et ce qu'on voit, c'est que depuis 2 ou 3 mois, elle commence même à remonter un petit peu, en particulier dans la composante des services. Mais les services, aujourd'hui, c'est très important. C'est plus de 70% de l'économie. Et cette composante aux États-Unis, elle remonte parce qu'on est au quasi plein emploi. Et de ce fait, les tensions salariales restent relativement fortes aujourd'hui. Et donc la problématique pour la Banque Centrale Américaine, vous vous souvenez, en fin d'année dernière, on attendait le fameux pivot de la Fed.
Absolument.
Et qui est arrivé, et notamment au mois de novembre, au décembre, où la Fed a fait presque rempli plus que ce que les marchés attendaient. Et donc on a eu ce très fort rallye et sur les marchés actions et évidemment sur les marchés obligataires avec les baisses de taux sur l'ensemble de la courbe américaine et européenne. Et aujourd'hui, la Fed est en train de se rendre compte que finalement, après avoir décru très rapidement, les dernières marches d'inflation à baisser, on n'y arrive pas, voire même on repart un petit peu dans l'autre sens. Et donc ça complique aujourd'hui tout le narratif de marché qui était en place sur la mise en place de baisse de taux pour cette année 2024, avec en plus une complexité supplémentaire aux États-Unis, c'est évidemment l'élection présidentielle américaine. Il serait déjà, en théorie, il faut pas tellement, les banques centrales ne sont pas tellement, doivent avoir des politiques assez stables, proche des élections, pour éviter d'être attaqué, de jouer un jeu politique, de favoriser ou de défavoriser l'un des deux candidats. Et donc la Fed aujourd'hui, elle est un petit peu pressée par le temps pour agir en amont des élections et pas au mois de septembre ou au mois d'octobre en arrivant dans les élections. Mais aujourd'hui, elle est dans une situation où ça reste trop dynamique en termes d'activité économique et d'inflation qui repart. Et donc, on voit bien les taux américains qui remontent, le dollar qui sera fermé, mais qui, par voie de conséquence, gêne également la BCE. Mmh. Puisque la BCE, on attendait, enfin, les marchés attendaient à peu près 5 à 6 baisses de taux en début d'année. Aujourd'hui, elle ne pourra pas réaliser ce programme de baisse de taux si la Fed ne fait que une ou deux, voire même pas du tout de baisse de taux. Et donc, c'est aussi ça, on le voit dans l'euro-dollar, ça se reflète aujourd'hui.
Voilà, ça se reflète déjà, évidemment. Vous nous dites qu'il faut que ce soit très bientôt l'action, parce qu'après, le calendrier politique va prendre le pas sur les autres calendriers.
Exactement, il y a une fenêtre qui va se fermer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'alignement entre cette fenêtre, pour le moment, et des chiffres d'inflation économique qui restent un peu trop haut en termes d'inflation, et toujours une activité économique très robuste aux États-Unis.
On a parlé un petit peu de macro avec vous, Stanislas. On va toucher à un mot de micro. Les résultats d'entreprise pleuvent depuis quelques semaines maintenant. On va parler peut-être d'un résultat dont on ne parle pas assez. Nous voulions nous arrêter sur une valeur hors tech. Oui, il y en a encore qui nous intéressent. Sur qui on zoome ?
Il y en a plusieurs. Alors, on pourrait parler de Saint-Gobain, par exemple, qui a confirmé au premier trimestre, finalement, le 7 reprises, le passage des points bas, qui confirme ses guidance pour 2024, avec aussi une amélioration du mix. Et c'est vrai que c'est une valeur qui avait beaucoup repris en 2021 et en 2022, avec un nouveau management qui avait notamment mis le cap sur la rentabilité, la génération de cash flow, mais qui depuis, sur les craintes de ralentissement, était un peu plus délaissée. Et puis, comme vous l'avez dit, d'autres secteurs comme la technologie ont aspiré aussi une grosse partie des capitaux. Et donc, on a une très bonne publication de Saint-Gobain qui montre que le tissu industriel européen continue à bien se comporter. On a également eu Safran qui a publié des résultats au-dessus du consensus. Donc, toute le sous-secteur de l'armement qui est aussi assez et de l'équipement bien porté aujourd'hui. Mais on voit aussi que dans ces secteurs-là, on continue à avoir une bonne dynamique de résultats et des trajectoires qui sont tenues, et même pour le cas de Safran, des possibles révisions en hausse du consensus pour les attentes pour l'année 2024.
Cette semaine, qu'est-ce que vous regardez comme résultat en particulier chez Sycomore ?
Alors, on a une semaine qui est très très chargée. Le secteur qui a commencé à publier, donc on a eu BNP la semaine dernière dans les banques avec une bonne publication. C'est un secteur qui, pour nous aujourd'hui, retrouve avec des niveaux de taux plus élevés, un peu plus de visibilité, une baisse du coût du risque.
Le secteur bancaire.
Voilà, le secteur bancaire a un certain intérêt, donc c'est un secteur sur lequel on va continuer à s'intéresser. On a parlé ensemble, on a eu le début de publication de résultats la semaine dernière sur le secteur immobilier avec notamment Gecina et Unibail, et on voit que d'un côté, on a de bien meilleurs revenu du fait de l'inflation, mais toujours un problème bilanciel du fait de la valorisation au bilan, qui sont toujours marqués à des niveaux assez élevés. Donc on voit que c'est des secteurs là beaucoup plus en transition, donc sur lesquels on reste relativement prudent aujourd'hui. Donc pour nous, le focus il reste sur des secteurs assez stables, la santé qui nous intéresse, évidemment le secteur banque et assurance qui est dans une phase de reprise assez attractive pour nous, évidemment la technologie qui aujourd'hui est une pierre angulaire des marchés avec un poids très important. On a eu l'Amérique la semaine dernière avec Microsoft, Google, puis aussi de bons résultats chez SAP dans la semaine précédente. Donc ça, on voit que ça va continuer, et même avec Dassault Systèmes qui commence à toucher aussi un peu un point bas dans la transition. Toujours un niveau de valorisation élevé, mais des perspectives qui pourraient s'améliorer au fur et à mesure de l'année 2024. Donc un panel très large dans les deux prochaines semaines, avec énormément de publications de résultats.
Merci beaucoup Stanislas de Bayencourt de l'équipe Sycomore Asset Management d'avoir été avec nous dans Tout pour Investir, pour un premier regard sur la macro et la micro. Dans Tout pour Investir, cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application.